Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Bonsoir, nous sommes mercredi le 26 janvier 2022. C'est le moment de suivre le journal par la langue française. À la présentation, Joséphine Jones Mundimana. D'abord, les grandes articulations de cette édition. Un recensement ethnique et régional est en cours de préparation dans les différents secteurs de l'administration. Une correspondance irrelative a été adressée aux autorités du pays, selon Vital Chimilimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile FOSC. Ce recensement va à l'encontre de la loi burundaise. Très prochainement, la carte d'identification de la diaspora burundaise sera mise en place. Apollonie Simbizi de l'Alliance burundaise au Canada estime que c'est une manière du pouvoir en place de chercher à diviser la diaspora burundaise. En économie, le ministre des Finances dresse un bilan largement positif pour ce semestre. Faustin Dikoumana, analyste des questions économiques, n'est pas de cet avis. C'est plutôt un discours politique qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Ouvrons ce journal par ce dossier d'insécurité. Une personne a été blessée par balle par des individus armés non encore identifiés. Les faits se sont passés dans la nuit de ce mardi à mercredi sur la colline Sasswe, commune Kayokwe de la province de Mwaro. Les informations en provenance de cette colline indiquent que la victime est un membre de la Ligue des jeunes Imbonerakure affilié au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les précisions avec Valérie Moucho.
La personne blessée est un membre de la milice Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans la commune Kayokwe. Selon nos sources, ces Imbonerakure effectuaient une patrouille nocturne vers 2h du matin sur la colline Sasswe. Ils se sont heurtés à un groupe armé qui a tiré à balles réelles sur ces Imbonerakure, blessant ainsi l'un d'eux. Ce groupe armé qui n'a pas été identifié s'est ensuite volatilisé selon les témoignages de la population locale. La victime a été évacuée vers l'hôpital de Kibumbu pour y recevoir des soins. Des habitants de la commune Kayokwe s'inquiètent de l'insécurité qui s'observe ces derniers jours dans cette commune et demandent que la sécurité soit renforcée.
On ne peut plus passer un mois sans qu'il n'y ait des personnes tuées, que ce soit dans leur ménage, dans les lieux de travail ou sur le chemin de retour à la maison. Nous vivons la peur au ventre. Nous demandons à la police de renforcer la sécurité. Il faut que la sécurité soit garantie pour ceux qui ont ces tâches. Ces Imbonerakure qui font des patrouilles nocturnes, ces tâches sont réservées à la police et aux militaires.
Les sources policières dans la commune de Kayokwe disent que les enquêtes sont en cours afin d'identifier ces malfaiteurs.
En politique, un recensement ethnique pour identifier les fonctionnaires des institutions publiques et organisations non gouvernementales va bientôt commencer. Cela transparaît dans une correspondance du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité adressée aux autorités du pays. Cette correspondance est accompagnée d'une fiche d'identification du personnel. Le point avec Diane Nkurunziza.
Dans cette correspondance du 24 janvier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique indique aux gouverneurs des provinces et aux inspecteurs généraux des institutions étatiques et privées que le recensement ethnique doit se faire le plus rapidement possible. Selon le ministre de l'Intérieur, ce recensement fait suite à une descente de la commission sénatoriale d'enquête sur le respect des équilibres prévus par la Constitution au sein des institutions étatiques, para-étatiques et les organisations non gouvernementales. Toujours selon cette correspondance, le ministre de l'Intérieur ordonne qu'une fiche d'identification type du personnel accompagnant cette correspondance lui doit être transmise aussitôt que possible. Ainsi, chaque fonctionnaire doit remplir la fiche avec son nom, son ethnie, sa colline, sa commune et sa province d'origine, sa fonction, sa date d'engagement, sa nationalité et son téléphone avec signature. Pour rappel, en 2016, au mois de novembre, le Sénat burundais avait demandé au gouvernement d'organiser un recensement général de tous les fonctionnaires. À cette époque, le Sénat avait justifié cette opération par le fait qu'il voulait vérifier si les équilibres prévus par la Constitution burundaise étaient respectés. La même justification avancée donc par le ministre de l'Intérieur.
Les équilibres ethniques au sein des institutions doivent s'inspirer de l'accord d'Arusha qui les a dictées pour établir une certaine justice entre les composantes de la société civile. C'est l'explication de Frédéric Wambugui-Nyumvila, ancien vice-président. Selon Frédéric Wambugui-Nyumvila, le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, est en train de faire fausse route en mêlant les fonctions purement ethniques dans cette opération. Suivez Frédéric Wambugui-Nyumvila.
Je me suis interrogé sur les bases qui ont poussé le ministre à réagir ainsi. Il peut s'être référé au contenu de l'accord d'Arusha, qui est la base du partage du pouvoir. Mais ici, je rappelle justement la raison de ce partage du pouvoir et comment ce partage du pouvoir devrait être fait. La raison, c'est que, compte tenu justement du constat que le conflit burundais était un conflit d'ordre politique, lié au fait qu'il y a eu de l'exclusion dans tous les domaines de l'État, il fallait absolument trouver une solution qui convient. Et c'est dans le protocole 2, il est précisé comment ce poids du pouvoir doit être organisé. Et à ce moment-là, nous avons précisé aussi que ce sont les domaines essentiellement politiques et administratifs qui doivent être concernés par justement cet équilibre ethnique et non pas des domaines techniques. Il fallait, dès le départ, et il y a une loi qui distingue les fonctions techniques des fonctions politiques. Donc, les techniciens, comme les directeurs généraux qui sont là depuis 20 et 30 ans, techniciens, les enseignants qui sont là depuis des années, les directeurs d'école qui sont promus grâce à leur technicité, à leurs compétences, à leur expérience, ceux-là ne sont pas concernés par, justement, cet équilibre ethnique. Et encore moins, justement, ces agents, ces organisations non étatiques, ils ne sont pas concernés par, justement, l'équilibre au sein de ces organisations. Et l'autre niveau, justement, de constat ou de critique, c'est celui qui doit constater ces déséquilibres ou ces équilibres sur le terrain. Est-ce le ministre de l'Intérieur? Non. Il est bien précisé aussi dans les accords d'Arusha que c'est bel et bien le Sénat qui doit faire ce travail. Et le Sénat doit se rendre sur le terrain et constater dans quel domaine, et des domaines politiques administratifs, et non pas dans des domaines techniques. Parce que la précision est très claire. Le président du Sénat donne le rapport au chef de l'exécutif qui constate et qui est appelé à régler ces questions de déséquilibre.
Réagissant à ce sujet, Vital Chimilimana, président du FORSC, déplore cette décision qu'il qualifie d'illégale. Selon lui, ce recensement ne vise qu'à une discrimination ethnique régionale. Vital Chimilimana appelle la population à dénoncer la mise en application de ce recensement qui est contre la loi burundaise.
Et tout d'abord, nous savons que les équilibres ethniques ont été convenus par l'accord d'Arusha pour appel à la réconciliation et versés dans la constitution de la République du Burundi. Il y a des domaines qui sont précisément concernés. Il s'agit de l'administration publique, des postes électifs et du gouvernement, ainsi que les corps de défense et de sécurité. Il y a même des lois, comme la loi sur la distinction des postes politiques et des postes techniques, qui démontrent à suffisance que chaque personne, chaque Burundais, peut occuper un emploi de son choix, selon ses capacités, selon ses compétences, sans tenir compte de son ethnie ou de son origine ethnique. La visée ou l'objectif de cette activité entreprise par le Sénat du Burundi n'a pas d'explication. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un tel recensement sont fait et à aucun moment le Sénat n'a jamais donné ou expliqué les raisons de ce recensement ou expliquer les résultats recueillis. Donc, chaque fois que de telles activités sont entreprises, on craint des manipulations politiciennes et des manipulations qui peuvent déboucher à une série de discriminations sur base ethnique, régionale et autres. Et ceci doit être dénoncé par plusieurs personnes, par plusieurs groupes, y compris la société civile, les syndicats et d'autres instances, d'autres groupements.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Une carte identifiant les Burundais de la diaspora va bientôt voir le jour. Un document y relatif est en cours de traitement pour signature au ministère des Relations extérieures. Les initiateurs sont des proches collaborateurs du gouvernement. Cette carte, dénommée Danga Diaspora, sera une condition aux Burundais vivant à l'étranger pour obtenir des documents nécessaires au Burundi et dans ses ambassades. Son prix sera de $50 américains payés chaque année pour validation. Les détails avec Trifine Kanewabu.
Le document fait savoir que la carte dite Danga Diaspora sera octroyée à partir du 1er mars au 31 mai de l'année en cours. Elle coûtera $50 américains, une somme qui sera payée chaque année pour renouveler la carte. Ainsi, la carte permettra d'identifier les Burundais de la diaspora et donnera accès aux ambassades du Burundi. C'est grâce à cette carte que tout Burundais vivant à l'étranger voulant aller au Burundi aura le visa de séjour. Celui qui sera en possession de ce document aura manifesté être en bonne relation avec le Burundi et qu'il contribue pour son développement. Avec la carte, on sera autorisé à suivre les réunions et participer à d'autres assemblées organisées par la diaspora. Elle donnera accès aux différentes instances de l'État, sans oublier qu'elle facilitera l'accès aux services de l'immigration. Autre chose, c'est qu'avec la carte, il sera facile de dénombrer les Burundais vivant à l'étranger qui entretiennent de bonnes relations avec le pays d'origine et qui contribuent à son développement. En 2016, selon toujours l'écrit, les Burundais de la diaspora étaient plus de 365 000. Il affirme que cette année 2022, le nombre a augmenté.
Les Burundais vivant au Canada ne comprennent pas la valeur ajoutée de la carte identifiant un citoyen burundais de la diaspora. Apollonie Simbizi, secrétaire exécutif de l'Alliance des Burundais du Canada, trouve que l'introduction d'une carte d'identité des Burundais de la diaspora est une stratégie du parti au pouvoir CNDD-FDD de créer ses ailes dans la diaspora burundaise en la divisant. Une violation par ailleurs des droits humains. Suivez Apollonie Simbizi de l'Alliance des Burundais du Canada.
L'ABC ne voit aucune raison de vouloir octroyer une carte d'identité propre spécifique à un groupe de Burundais qui vit à l'extérieur, alors que selon la loi, la carte d'identité, elle est identique pour tout ressortissant burundais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ici, il y a lieu de se demander quels en sont les commanditaires et quels en sont les mobiles derrière. D'abord, l'ABC sait très bien qu'il y a plusieurs organisations ou associations des Burundais dans plusieurs pays du monde qui ont été créées selon les lois régissant ces pays et qu'il n'y a jamais eu d'assemblée pour élire un organe chapeautant ces organisations. Donc, une association de la diaspora burundaise n'existe pas pour l'ABC et celle qui existerait n'a reçu aucun mandat des associations de la diaspora. Donc, celle qui existerait a été fabriquée certainement à Bujumbura et c'est donc un instrument du pouvoir pour essayer de créer des branches ou plutôt des cellules du parti à l'extérieur du Burundi et ce malheureusement par force. Ça apparaît comme une manœuvre à peine voilée de faire un recensement des Burundais vivant à l'extérieur du pays pour les contrôler mais aussi pour les diviser en deux groupes. Ceux qui sont considérés comme proches du pouvoir, CNDD-FDD, parce qu'ils auront accepté cette carte de la diaspora avec des avantages qui vont avec, notamment être reçus ou ne pas avoir des services dans les ambassades à l'extérieur, etc., etc. Donc, ce que nous voyons, c'est que les Burundais de la diaspora n'ont pas besoin de carte spéciale parce qu'ils ont droit au passeport. Et le Burundi accepte la double nationalité. Cette carte qui coûtera $50 chaque année apparaît comme une sorte de rançon pour usage inconnu et parce que elle n'est pas convenue dès le départ. Même un passeport n'est pas payé chaque année. Alors, l'ABC trouve que c'est une mesure contre les droits et libertés de chaque individu, une façon de leur faire peur afin de se ranger derrière le pouvoir et ne plus dénoncer les violations commises par lui.
En page économique, le discours du ministre des Finances sur les réalisations semestrielles de son ministère, indiquant que le bilan est largement positif, est un discours purement politique qui n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Avis d'un économiste, Faustin Dikoumana, qui conseille plutôt au gouvernement de faire une politique efficace de mobilisation des ressources nécessaires pour le développement et faire sortir du niveau de la pauvreté à la moitié de la population burundaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté selon le récent rapport de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, ISTEBU. Plus de détails avec Georges Nimenya.
Lors de la présentation des réalisations de son ministère, le ministre burundais des Finances, Domitien Ndihokubwayo, a indiqué que le bilan des réalisations est largement positif et que même les salaires des fonctionnaires de l'État ont été toujours payés à temps.
Sur une prévision de recettes intérieures de 588 milliards, 84 840 millions de francs burundais pour le premier semestre 2021-2022. Les services de l'Office burundais de recettes ont recouvré un montant de 642,34 milliards de francs burundais, soit un taux de réalisation de 109%. Le taux d'exécution des biens et services est de 48,1%. Ce taux s'explique par le faible niveau d'exécution des investissements publics au cours de ce premier semestre. Le taux d'exécution des salaires et traitements est de 48,6%. Nous profitons de l'occasion pour annoncer que les salaires aux fonctionnaires de l'État ont été toujours payés dans les délais.
Il a également donné le bilan de la mobilisation des ressources extérieures avec différents accords de financement. Pour l'économiste Faustin Dikoumana, le discours du ministre des Finances est un discours purement politique.
Des fois, il y a des langages politiques qui sont utilisés par les autorités. Le Burundi a un problème de moyens pour vraiment s'engager dans la voie de l'émergence. Si on analyse actuellement la crise des devises, l'impact de la crise des devises est sur le développement économique, actuellement l'état des infrastructures, on voit qu'il y a un problème. Il faut une stratégie de mobilisation des fonds dignes de son nom pour vraiment faire face à ces besoins. Déjà en 2010, la BAD avait estimé les besoins en infrastructures à 6 milliards de dollars pour que le Burundi puisse décoller. Sinon, il faut vraiment regarder la réalité en face, attaquer le taureau par les cornes, faire toute stratégie pour mobiliser ces fonds afin que le Burundi retrouve la trajectoire de la relance économique et de l'émergence.
La pauvreté monétaire individuelle au Burundi est estimée à 51,4% selon les chiffres du récent rapport de l'Institut des statistiques et études économiques du Burundi, ISTEBU. Cette institution indique dans son même rapport que presque la moitié de la population burundaise vit en dessous du seuil de la pauvreté. L'analphabétisme et le sous-emploi font partie des facteurs majeurs de la pauvreté, continue le même rapport de l'ISTEBU.
Toujours au chapitre de l'économie, avant de clore cette édition, rendons-nous au sud du pays, où les prix des produits de première nécessité ont grimpé ces derniers jours en province de Lomongué. Les acheteurs qui se trouvent dans l'extrême pauvreté se disent dépassés. Cette montée des prix est justifiée par l'interdiction d'importer les vivres via le port de Lomongué. La population demande au gouvernement de revenir sur sa décision. Le point avec Beni Extrakana.
Selon nos sources sur place en province de Lomongué, le prix du haricot dit Kinure est passé de 1000 francs à 1500 francs le kilo. Le haricot jaune est passé à 2000 le kilo au moment où il s'achetait 1400 francs. Le prix du riz a aussi grimpé en passant de 1500 à 2700 francs burundais. La farine de manioc est l'aliment préféré dans cette région. Son prix est passé de 800 francs à 1600 francs. Le sucre est vendu sur le marché noir à un prix variant entre 5 et 7 000 francs le kilo alors qu'il ne devrait pas dépasser le prix officiel de 2600 par kilo. Cette montée exponentielle des prix de première nécessité qui se fait observer depuis le début de ce mois de janvier s'ajoute à l'extrême pauvreté qui sévit dans les ménages, selon son témoignage.
Les prix ont sensiblement monté, et la farine de manioc, et le riz, le haricot. L'argent n'achète rien aujourd'hui comme vivre. Le maïs était normalement cher, malgré les hangars de stockage initiés par le gouvernement, et le sucre, quant à lui, s'achète à un prix variant entre 6 000 et 7 000 francs kilo quand il est disponible au marché.
La situation s'est empirée avec la nouvelle mesure interdisant l'importation des produits alimentaires via le port de Lomongué. La population demande au gouvernement de revenir sur sa décision pour autoriser l'entrée des denrées alimentaires venant de l'extérieur.
Le gouvernement devrait revenir sur sa décision et autoriser l'entrée des marchandises via le port d'Omongé, sinon l'alphabet des prix de première nécessité persistera. La population vit dans la misère sans nom, sans le pouvoir d'achat.
Nous avons essayé de joindre par téléphone le gouverneur de la province de Lumonge, consolateur Nitunga, pour de plus amples informations, mais son téléphone portable était injoignable.
Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.